Bienvenue dans le podcast de Positive Compagnon, le label RSE Made in France. Dans ce podcast mensuel, nous aborderons les grands sujets de société et mettrons en lumière les solutions concrètes pour résoudre les principales problématiques sociales, sociétales et environnementales. N'hésitez pas à partager nos émissions à vos proches et à vous abonner à notre chaîne. Bonne écoute!
Bienvenue dans notre dernier épisode consacré à une entreprise française innovante qui redéfinit le paysage de la restauration d'entreprises. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'univers de Foodchéri, une société française spécialisée dans la restauration pour les entreprises, alliant excellence gastronomique et durabilité environnementale. Foodchéri ne se contente pas que de satisfaire les papilles, mais s'engage également à être un acteur responsable dans l'industrie de la restauration. Découvrons ensemble comment cette entreprise révolutionne la manière dont nous envisageons la restauration collective et comment elle intègre la durabilité au cœur de son modèle d'affaires. Nous sommes vraiment très heureux de recevoir à notre podcast et vidéo aujourd'hui Caroline Vigneault, qui est directrice food et RSE de Foodchéri, la cantine engagée qui aide des entreprises à améliorer la pause déjeuner de leurs salariés avec des plats fraîchement cuisinés, équilibrés et variés, en cours de labellisation Positive Compagnie. Bonjour Caroline, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre parcours ?
Bonjour Charles-Henri. Donc, je m'appelle Caroline Vigneault-Cassina et je suis la directrice Food RSE donc de Foodchéri. Je travaille à Foodchéri depuis plus de 7 ans. Je suis une des plus anciennes de l'entreprise.
Depuis combien de temps existe Foodchéri ?
Foodchéri a été créé en 2015 et moi, j'ai intégré Foodchéri en courant 2016.
Ok, tout début.
Deux personnes qui sont plus anciennes que moi, j'ai envie de les citer aujourd'hui pour commencer cette interview. La première, c'est Momo, un de nos plongeurs, le chef plongeur, en fait. Okay. Et l'autre, c'est Sofiane, qui est notre chef de cuisine avec une autre personne. J'ai commencé en tant que chef R&D à Foodchéri. Et même avant d'être chef R&D, Foodchéri était mon client.
D'accord.
À l'époque, j'avais un restaurant que j'avais créé donc dans la Manche, qui s'appelait Goût Sauvage. Et pour arrondir les fins de mois, on va dire... Je faisais du consulting et Foodchéri était une petite entreprise, une petite start-up à l'époque et n'avait pas encore la fonction R&D internalisée. Donc, dans un premier temps, j'ai travaillé pour Foodchéri en tant que chef consultante. Et ensuite, ils ont internalisé la fonction. Ça tombait bien, j'étais en train de vendre mon restaurant. Et donc, c'est comme ça que j'ai intégré Foodchéri en tant que chef R&D.
Et donc, il y avait assez peu d'employés à ce moment-là, c'est ça ?
Ah, effectivement, on était... Aujourd'hui, on est 240 à l'époque, je pense, où je rentre à Foodchéri. On est une cinquantaine, dont la moitié déjà en production, la moitié des effectifs en production et la moitié dans les fonctions support. Ce qui est encore le cas aujourd'hui en termes de ventilation d'effectifs.
Oui, justement, est-ce qu'on pourrait rappeler un peu comment l'organisation, en fait, Foodchéri est connue du grand public, plus ou moins, hein, de plus en plus, et je vous le souhaite encore de plus en plus. Comment aujourd'hui est organisée la société ? Est-ce que c'est beaucoup de commerciaux ? Est-ce que c'est beaucoup de personnes au niveau de la restauration ? Comment vous êtes structuré ?
Alors, pour répondre à la question comment c'est structuré, je vais d'abord dire ce qu'on fait. Après Foodchéri, on est des cuisiniers. On est une entreprise de la food tech, c'est souvent comme ça qu'on nous résume. Et dans food tech, il y a food, il y a tech, mais vraiment, notre cœur de métier, c'est d'être des cuisiniers. C'est écrit dans nos statuts, notre mission, c'est de concevoir, cuisiner et livrer des plats bons pour la santé, bons pour la planète, bons pour tous. De fait, on est structuré autour d'une équipe de cuisine. Donc, on a un laboratoire qui est en fait rien d'autre qu'une immense cuisine, la même que la vôtre, mais en gigantesque, dans laquelle tous les jours, on cuisine à partir d'ingrédients bruts et frais les plats qui sont servis donc chez nos clients. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Après, au sein de la cuisine, il y a une diversité de métiers, ceux qui s'occupent du chaud, du froid, ceux qui mettent dans les conditionneurs, qui mettent dans les barquettes. Et on a des fonctions support que sont la tech, donc pour avoir une expérience digitale, puisque chez Foodchéri, tous les plats sont commandés au travers d'une application ou par votre ordinateur.
Et pour l'avoir expérimenté, ça fonctionne très bien. Voilà, parce que même quand il y a un petit retard ou qu'on rate sa commande, voilà. On est quand même tenu en temps réel, je dois le préciser.
Voilà. Donc, la tech, c'est vraiment une fonction, mais support, mais il n'y a rien de dégradant à dire ça, mais elle est vraiment au service d'une expérience utilisateur optimum. Et on a aussi beaucoup de fonctions de logistique, puisqu'il faut qu'on amène les plats jusqu'à leur lieu de consommation.
Okay.
Et puis évidemment, derrière, on a des métiers du marketing, de la finance, plus administratifs qui viennent en support des fonctions de production et de logistique.
Alors, on va aborder un sujet qui nous passionne tous dans cet épisode, c'est la notion d'engagement, d'impact. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment aujourd'hui vous avez décidé, est-ce que c'était le début, mais comment vous avez décidé de vous lancer dans une cuisine engagée? Et en fait, c'est quoi votre définition de la cuisine engagée?
Alors, pour juste reparler un tout petit peu de moi, et plutôt plus généralement de moi et mon équipe et le pôle, je pense que ça fait sens de s'attarder un peu sur le fait que c'est la direction food et RSE. Et ce n'est pas un hasard si on les a mises ensemble. C'est qu'en fait, la RSE, elle est au cœur de notre food et donc au cœur de notre métier, et comme vous l'avez dit en préambule, au cœur de notre modèle d'affaires. Et qu'on n'a pas fait de la RSE après, on l'a fait dès le début. Dès le début, elle s'est intégrée, sauf qu'au début, elle n'était pas formalisée de façon aussi claire qu'elle l'est aujourd'hui. On n'en avait
C'était des
pas de.
convictions, en fait.
Voilà. Donc, en fait, dès le début, on a été porté par des engagements. Avant même que j'arrive, il y avait une forte conviction que l'alimentation, notamment végétale et plus spécifiquement végétarienne, c'était un levier hyper puissant pour la transition alimentaire. Donc, depuis le début, Food Chérie a cuisine, livre et vend 50% de plats végétariens. Et notre feuille de route à horizon 2030, c'est 65%. Je m'attarderai sur les 35% à un autre moment peut-être de l'interview. Donc ça, c'est vraiment, dès l'origine, c'est là et ça n'a pas faibli et ça a même fait que s'amplifier depuis le début. Ensuite, le sourcing, c'est un autre élément très important qui permet de baisser significativement son impact environnemental. Donc là aussi, depuis le début, on a des engagements très forts et des cahiers des charges très précis sur, alors c'est assez divers les solutions. Évidemment, acheter des produits le plus possible nationaux, qui sont pas cultivés ou élevés loin de chez nous, donc sont moins
Est-ce que
transportés.
c'est 100% aujourd'hui
En
de produits?
national, non.
Ok.
Bien sûr que non. Par exemple, on a nos pâtes qui sont italiennes, on a notre riz qui vient d'Asie. On pourrait acheter du riz français. Allez, il y a encore un chemin à faire. Il y a aussi une accessibilité en termes de prix. Mais on a 60% de nos produits qui sont français, ce qui est un très beau chiffre. On a 40% de nos ingrédients en quantité qui sont issus de l'agriculture biologique. C'est énorme. Je vous invite à ouvrir, à tous les auditeurs là, qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, à ouvrir votre placard ou votre réfrigérateur et à vous poser la question, est-ce que j'ai quasiment un ingrédient sur deux dans mon placard ou mon réfrigérateur qui est bio? Je pense que la plupart du temps, la réponse est non.
Je sais quoi les volumes aujourd'hui en termes de tonnage. Je sais pas comment vous calculez. C'est le nombre de repas par an, c'est qu'on ait une idée.
Alors, les chiffres qu'on peut dire, en moyenne, on cuisine 10 000 plats par jour. Voilà,
Ok,
pour vous donner
vous
une idée.
nourrissez
Donc,
10 000 personnes par jour.
on n'est pas, on est une cuisine, on fonctionne comme une cuisine artisanale, mais dans des grosses marmites, avec des grands fours, etc. Mais tout est fait à la main par des cuisiniers. Voilà, il n'y a rien qui est industrialisé au sens qui serait mécanisé. Et ça, on en est très fiers parce que la cuisine, c'est un métier, c'est un super beau métier en fait, c'est un métier de passion. Être des cuisiniers, ça nous permet d'avoir une super maîtrise, super bonne maîtrise de notre chaîne de valeur, d'avoir une traçabilité complète de nos ingrédients, d'être super réactif en cas de crise, par exemple, de maîtriser aussi nos coûts par rapport à nos producteurs, fournisseurs, parce qu'on a des relations avec eux qui sont robustes et solides. Mais c'est aussi, si on porte un projet, je sais pas comment l'expliquer autrement que être cuisinier et pas être cuisinier, c'est pas la même chose. Je pense qu'il y a la cuisine qui est pas faite maison, elle est bien aussi, mais c'est pas la même chose. Nous, notre projet, c'est cette cuisine vivante avec des hommes et des femmes derrière et qui mettent leur cœur et qui mettent leurs idées et qui mettent leur âme, en fait, dans ce qu'ils font. Et je pense que là, ce qu'on mange a une saveur particulière quand c'est fait de cette façon.
Donc, pour résumer, il y a les produits, la provenance des produits, il y a le pourcentage de bio,
Oui,
finalement.
plus généralement, on pourrait dire les modes de production.
OK.
Le bio étant le mode de production le plus vertueux, le plus connu qu'il y a sur le marché aujourd'hui et qu'on sait objectivement reconnaître, en fait. Donc, nous, on travaille beaucoup avec Biocoop Restauration, notamment sur ce sujet des ingrédients bio, mais pas que, hein. On a aussi d'autres partenaires, notamment nos pâtes qui viennent directement d'une coopérative italienne qui était très pionnier dans les années 70. C'est des agriculteurs qui cultivaient des céréales, notamment du blé, mais pas que, qui se sont regroupés, qui ont mis en place un outil de qui ont construit un outil de production pour valoriser leurs propres produits. Par exemple, c'est un exemple, j'en aurais d'autres.
Ok, il y a
Donc la
quoi d'autre
provenance, les
encore?
modes de
Ouais.
production essentiellement, et on travaille aussi beaucoup, mais là c'est un autre argument, on travaille beaucoup en circuit court, on entend souvent cette allégation circuit court. Circuit court, ça veut bien dire de 0 à 1 intermédiaire. Et quand on travaille en circuit court, nous c'est quasiment un produit sur deux qui est sourcé en circuit court, on travaille sur notre chaîne de valeur. Comment on fait pour avoir une chaîne de valeur la plus courte possible? une chaîne d'approvisionnement. Et du coup, comment on fait pour rémunérer le plus justement possible la personne qui apporte le plus de valeur à cette chaîne, à savoir le producteur. Alors, je ne dis pas que les logisticiens, les gens qui stockent ne servent à rien. On a aussi besoin de ces gens-là, évidemment. Mais on le sait, il y a eu beaucoup de déviations avec le système tel qu'il est organisé aujourd'hui, notamment avec le système de la grande distribution, où un producteur d'oignons, il touche 30 centimes quand le consommateur final, il achète ses oignons 4,50 € le kilo. Donc, c'est pour éviter aussi cet écart, cette dissonance de valeur que nous, on essaye voilà, de travailler le plus possible en direct, soit avec les producteurs, soit avec des coopératives de producteurs. Étant donné les volumes de production qu'on a, le fameux petit producteur, on a quand même des difficultés à travailler avec.
Il nourrit 10 000 personnes par jour. Voilà, il y a aussi des choix qui ont été faits, il me semble, choisir se renoncer. Je vous tends la perche.
Ouais. Alors là, je pense que je vois de quoi vous voulez parler. On a renoncé au bœuf, au cabillaud et à l'avocat. Alors, ces trois produits...
Ce sont quand même des composantes moyennes ou standards de 90% des restaurants à Paris et ailleurs. Hein.
Effectivement. Alors, on l'a fait, alors, pas seulement pour faire parler de nous, ça a fait parler de nous et c'est une très bonne chose. Ça a fait peur aussi à certains de nos clients. On en a perdu, certains. On en a récupéré d'autres, mais surtout, on les a beaucoup accompagnés. Et on les a pas jugés quand on a fait ça. On a dit, on a expliqué pourquoi nous, en tant que restaurateurs engagés, on ne voulait plus servir ces produits. Donc, pour résumer, le bœuf, c'est essentiellement à cause des émissions de gaz à effet de serre. On a pas tort de le truc dans tous les sens, hein. Même si les prairies captent du carbone, etc. Ça reste un des aliments les plus émetteurs de gaz à effet de serre.
Je pense qu'on connaît les impacts. Ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir, je me mets à la place des foodistes qui écoutent ce podcast ou cette vidéo, qui regardent cette vidéo. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, demain, j'arrête, je prends des décisions courageuse comme ça, est-ce que quel est l'impact sur ma vente immédiate et est-ce que vous avez ressenti une chute potentielle de clients, est-ce que vous avez récupéré derrière, est-ce que cette communication vous a permis de vous asseoir sur un marché et de gagner plus de clients. J'aimerais bien qu'on creuse un peu ça si c'est pas trop confidentiel.
Je vais pas avoir des indicateurs aussi précis vous me demandez, mais en ressenti, enfin même un peu plus que ça, parce qu'on a quand même questionné nos clients. D'accord. On a perdu certains consommateurs.
Au préalable, vous avez envoyé des enquêtes à vos clients?
Non, on l'a pas au préalable. On les a questionnés après coup, okay. Parce que ça c'était un engagement ferme qu'on voulait prendre. On les a questionnés après coup, donc on en a perdu certains. Okay. On en a récupéré d'autres, mais on en a pas perdu tant que ça parce que par contre, vraiment, on les a accompagnés dans cette transition. On leur a pas dit, on arrête du bœuf et puis on vous laisse sans rien. On a imaginé, et là c'est vraiment casquette de cuisinière que je porte avec mon équipe, on a imaginé des solutions alternatives, des plats. Donc, vous avez plus, ce serait quoi un plat emblématique avec du bœuf pour vous?
J'en mange tellement pas que...
Les pâtes à la bolognaise.
Oui, voilà.
Ah, voilà. Okay. Bon, les pâtes à la bolognaise, est-ce qu'on arrive à les faire avec du poulet? La réponse est oui. Et est-ce que c'est bon? La réponse est oui, c'est délicieux. Et même, est-ce qu'on arrive à les faire avec des lentilles? La réponse est oui. Et c'est délicieux.
Est-ce qu'on peut faire un petit détour sur ce chemin de la restauration? Quelle est votre vision des burgers végétaux ou tout ce qui va remplacer les produits?
Les fameuses alternatives végétales. Exactement. Appelées parfois simili. Notre vision, elle est très claire. On en a besoin dans une certaine mesure. Et la mesure, elle est assez précise chez nous. Elle représente, on s'est donné comme feuille de route, ce sera jamais plus de 1 plat sur 3 dans la totalité de notre offre végétarienne. Actuellement, c'est 1 plat sur 10. Et globalement, les alternatives végétales, elles sont intéressantes d'un point de vue culinaire parce qu'elles permettent d'apporter ce qui fait un peu défaut quand on mange végétarien. Et je suis végétarienne, donc j'assume vraiment le fait de le dire. Je suis végétarienne et cuisinière. On manque un peu parfois de texture et de structure. Mmh. Les alternatives végétales, elles répondent bien à cet enjeu. C'est comment on fait pour remplacer, si on enlève du bœuf ou si on enlève du poulet, comment on fait pour remplacer tout en gardant cette mâche et cette structure d'assiette. Donc, elles permettent pour certaines personnes une transition vers un modèle plus flexitarien, voire végétarien. Donc, elles répondent quand même à certaines attentes. Elles sont pas indispensables. Il y a des végétariens convaincus, nouveaux ou anciens, qui se passent très bien des alternatives végétales. Mmh. Et elles ont pour la plupart un gros défaut, mais pas toutes. Et j'insiste parce que nous, justement, on va choisir les fournisseurs qui travaillent le mieux. C'est que souvent, elles rentrent dans ce registre de l'AUT, l'alimentation ultra transformée, qui est à juste titre très dégrillée par les experts scientifiques en ce moment, qui est de plus en plus sous le radar des consommateurs, des associations de consommateurs à juste titre. Et donc, si c'est pour un mal, enfin, c'est pas un, substituer quelque chose, faire de la maladaptation, pour reprendre un terme que j'aime bien. Ouais. Voilà, remplacer de la viande pour la substituer par un produit dans lequel il y aurait plein d'additifs. Alors certes, on fait des économies de gaz à effet de serre et de carbone, mais derrière, on crée des problèmes de santé parce qu'on s'expose à des additifs, à une alimentation qui est en gros mauvaise pour la santé. Donc, c'est ces arbitrages-là. Donc, nous, ce qu'on se dit, c'est que déjà, on fait du cas par cas. Les alternatives végétales qu'on source et qu'on référence, on screen vraiment leur composition et on prend les meilleures compositions possibles de ce qu'il y a sur le marché. Les autres, on ne les prend pas, pour être simple. On prend aussi celles qui sont bonnes, parce que c'est tout le temps bon. Et on limite, dans notre carte végétarienne, on limite leur utilisation.
Alors, vous avez abordé le sujet du carbone. Je pense que, il me semble, bon, j'avoue que j'ai un peu révisé, il me semble que c'est un sujet important chez vous. Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'histoire de ce fameux EcoScore et peut-être aussi la différence avec le Nutri-Score pour les personnes qui nous écoutent ou regardent?
Alors, l'EcoScore, il est né en 2020 et c'est une initiative privée. J'insiste parce que le Nutri-Score est un score officiel porté par le gouvernement et déployé dans un cadre très réglementé, etc., que nous, on utilise depuis 2017 et qui permet de donner une information claire, facilement compréhensible de la qualité nutritionnelle d'un plat avec un code couleur rouge à vert et une échelle de lettres allant de A à E. L'EcoScore s'est inspiré de cette infographie pour lui donner une information à caractère environnemental. Donc, il vient agréger un certain nombre d'informations. Il est basé sur ce qu'on appelle une ACV, donc une analyse de cycle de vie d'un produit. Là, c'est des sources officielles. La source, ça s'appelle Agribalise. C'est une base de données qui référence. Alors, au début, elle en référençait pas beaucoup. Maintenant, elle référence jusqu'à 300 ingrédients, qui permet de dire, en gros, si le poulet ou le chocolat ou, je sais, ou la lentille, enfin, quel est son impact environnemental. Et ensuite, elle transforme cet ACV en une note sur 100. Et ensuite, elle vient pondérer cette note par un système de bonus-malus qui prend en compte l'origine des ingrédients, s'ils sont porteurs d'un label ou pas. Si ce label est un label bio qui notamment favorise la biodiversité, il va y avoir des points supplémentaires. Et voilà, en gros, pour simplifier. Et donc ensuite, cette note finale est elle-même retranscrite par un algorithme assez savant. Tout est en open source. Hein. Je suis pas la meilleure pour en parler, mais tout est en open source. Et donc, elle est retranscrite en une note. Et donc, elle permet de dire si tel plat, puisque nous, on mesure le score de nos plats ou de nos entrées, de nos desserts, est favorable ou plutôt défavorable à l'environnement. C'est une initiative privée qui a été menée par un collectif auquel participaient notamment Open Food Facts, Marmiton et Yuka, et donc nous, Food Chéri. Actuellement, suite notamment à la loi Climat et Résilience...
Donc vous étiez en avance de cette loi Climat.
On était en avance, on était pionniers. Nous, on a voulu faire écho notamment à ce qui était ressorti de la Convention citoyenne pour le climat. On s'en souvient plus, parce qu'elle commence à être loin derrière nous, et derrière, il y a eu tout un arsenal législatif qui vient renforcer ce qu'on doit faire en termes d'affichage réglementaire. Mais c'était une demande à l'origine de la Convention citoyenne pour le climat d'avoir un affichage environnemental sur les produits alimentaires. Et depuis, il y a la loi Climat et Résilience qui est en train, qui donne un cadre et qui va favoriser l'émergence, et nous, on attend ça avec impatience, d'un score officiel qui s'appellera, on ne sait pas encore comment, EcoScore ou autre chose, et auquel on a déjà dit depuis le début que nous, on allait se raccrocher à cette méthodologie officielle quand elle sera disponible.
Il y a un parallèle à faire aussi avec le secteur du textile qui a des problématiques très similaires et qui aujourd'hui va dans des démarches très, très, très similaires. Et je peux aussi faire la promotion d'un calculateur d'État aujourd'hui qui s'appelle ecobalisebeta.gouv.fr. J'invite les personnes qui écoutent et regardent cette émission d'aller sur ce site ecobalisebeta.gouv.fr, qui aussi est un calculateur en open source disponible et qui aussi effectivement référence pas mal de produits sur cette plateforme. Alors, si on parle carbone aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vos consommateurs sont sensibles à ça? Est-ce qu'ils regardent vraiment cet impact? Est-ce que ou ce Nutri-Score aujourd'hui, EcoScore. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des feedbacks
Oui,
des
on
consommateurs?
en a plein et on est
Ok.
sûr qu'ils le regardent et on est sûr qu'ils s'en servent.
Ok.
Alors, on va pas se mentir, ils se servent quand même plus, qui est plébiscité, parce que c'est aussi plus ancien, c'est le Nutri-Score. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les études le prouvent, les sondages, que vraiment les choix alimentaires sont surtout faits pour, enfin, avec des arbitrages prix et santé. L'environnement vient juste après. Nous, l'éco-score, vous pouvez le sélectionner quand vous choisissez, vous voulez choisir votre, vous choisissez vos plats, vous pouvez vous en servir comme un critère d'achat. Donc, vous pouvez sélectionner, par
Ok.
exemple, que les plats en éco-score A ou B, ou l'inverse d'ailleurs, pour ceux qui seraient un peu schizophrènes. Et enfin, en tout cas, nos enquêtes clients, le service client nous le remonte aussi régulièrement, c'est l'outil qui leur permet de faire des choix en conscience et vraiment plébiscité aujourd'hui par nos clients. Et aujourd'hui, en affichage produit, si vous allez sur la page de Food Chérie, avant, donc il y a une photo, il y a un titre de plat, il y a un prix, évidemment, il y a un nom de plat, et en dessous, vous avez l'information du Nutri-Score et de l'Éco-Score. Avant, vous aviez le Nutri-Score et les calories. J'insiste, parce que c'est un grand pas qu'on a fait.
Okay.
On a enlevé les calories. Elles sont encore présentes parce que de toute façon, c'est obligatoire. Elles sont présentes en deuxième lecture quand vous cliquez sur la fiche produit. Mais les deux informations qu'on donne à niveau égal, c'est une information santé et une information environnementale.
Alors, justement, puisque vous parlez d'environnement, on a abordé la partie cœur de métier qui est quand même la cuisine, etc. Moi, j'aimerais qu'on aborde deux autres sujets qui sont aussi souvent délicats dans le monde du fooding. Ça va être à la fois le transport et tout ce qui va être contenant. Donc ça, c'est souvent la bête noire, j'ai envie de dire, des restaurateurs. Est-ce que vous avez essayé d'innover sur ces sujets-là? Quelles initiatives vous avez pu lancer? J'ai eu en mémoire que vous aviez même lancé une sorte de consigne, ce genre de choses. Après, il faut aussi regarder l'impact aussi carbone d'une consigne, hein, qui n'est pas forcément toujours neutre, hein, moins que, en tout cas, qui est plus important que ce qu'on pense. Je voulais avoir un peu votre avis ou vos tentatives ou même vos choix, vos décisions sur ces sujets-là.
Alors, juste avant de répondre à cette question, quand on fait sur un plat Food Chérie, on essaye de détailler l'impact environnemental, on a 88% de l'impact qui est dans la barquette. Donc, les ingrédients, on en a parlé, et la façon dont le plat est construit.
Oui, mais le consommateur, il voit quoi? La baguette qui reste dans sa poubelle.
Effectivement. Et nous-mêmes, on y est très sensible.
Exactement.
Mais quand même, pour se rappeler que notre plus gros levier d'action et tous nos et nos gros, le gros de nos efforts continuera de porter sur ça.
Bien
On,
sûr.
pour autant, on travaille aussi sur le fret et sur l'emballage. Intuitivement comme ça, on a envie de se dire, on se dit bon ben jeter un emballage plastique ou même carton à la poubelle, quel gâchis, ce serait beaucoup plus simple d'utiliser un emballage réemployable, pour employer le bon terme. C'est pas si évident que ça. On a envie d'aller vers ça. Les politiques publiques nous incitent aussi à aller vers ça, donc c'est pas pour rien. Néanmoins, on a fait une analyse de cycle de vie pour s'assurer, pour avoir des données objectives qui nous disent, dans notre modèle à nous, puisqu'effectivement, nous, on est un modèle de restauration livrée, donc on a du transport, quel est le meilleur matériau à transporter, quel est aussi le meilleur matériau qui nous permettra de tenir nos promesses clients, à savoir des plats, il faut assurer une certaine hygiène, par exemple, il faut aussi qu'ils aient une certaine durée de vie pour pas qu'il y ait trop de gaspillage. Et donc, on a fait cette analyse de cycle de vie et elle nous a donné des informations hyper intéressantes. Par exemple, le verre, dans notre modèle, c'est pas la peine. En gros, il est trop lourd. Il se casse facilement. Donc là, on a un problème d'hygiène et de casse. Il est très lourd à transporter. Donc, impact carbone, il faudrait 400 utilisations avant de pouvoir être ISO, un impact environnemental jetable. Alors qu'avec une résine, c'est 27 utilisations. En revanche, avant de diviser votre impact environnemental par deux, il faut avoir utilisé votre barquette en résine, celle qu'on a sélectionnée pour nos expérimentations de réemploi, 90 fois. Et 90 fois dans le système, chez nous, on ne sait même pas très bien à ce stade-là, c'est plus de 2 ans d'utilisation.
Sachant que là, on est en train de
Voilà.
parler carbone, mais aussi d'autres impacts. L'eau qu'il faut utiliser pour
Voilà.
nettoyer, aussi de l'énergie qu'il
C'est
va
à ça
falloir.
que sert la CV, c'est à mesurer toutes les externalités
Bien
négatives
sûr.
qui sont liées à l'usage d'un contenant réemployable. Il faut le transporter, effectivement, il faut le laver. Pour le laver, il faut de l'eau, il faut de l'énergie pour chauffer l'eau pour le laver. Et nous, dans notre système, on a même un lavage plus-plus, puisque nous, il faut que nos contenants soient trempés pour leur garantir une hygiène irréprochable.
Donc, sur la partie emballage, du coup, est-ce que vous avez essayé des choses, justement,
Donc,
ou...
on est en chemin. On a fait pendant 2 ans, avec deux entreprises clientes, une phase expérimentale. Et là, on est en phase de déploiement. On ne peut pas dire que ce soit encore massif. On va avoir d'ici la fin 2024, je pense qu'entre 5 et 10 sites de clients qui seront équipés en 100% en réemploi.
Okay.
Donc, on en est là et on a peu d'exemples, en fait, desquels s'inspirer. Donc, en fait, on est vraiment obligé de tout inventer et tout créer. On travaille avec on a des partenaires.
Mais c'est ça d'être alterfoodiste, hein.
C'est ça.
Dernier point sur la partie peut-être plus logistique, mais aussi conditions de travail aujourd'hui des livreurs. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment vous gérez ces aspects-là et quelle est votre originalité? Je sais qu'il y en a une, assez même un parti très fort. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous gérez vos livraisons?
Alors, je vois bien sur quel sujet vous voulez me titiller, vous avez raison. La fameuse course contre la montre, la livraison à 15 minutes chez nous,
le statut aussi.
C'est net. Alors, on travaille avec des auto-entrepreneurs. Hein. Je ne vais pas dire qu'on ne travaille pas avec des auto-entrepreneurs. Ce n'est pas vrai. On en a pour assurer le dernier kilomètre. Néanmoins, parce qu'il y a plusieurs façons de travailler avec des livreurs à vélo. Le statut. Bon, donc, nous, on n'a pas ou très peu de livreurs qui sont salariés.
Donc, c'est 100% vélo, la livraison.
Le dernier kilomètre, c'est vélo, scooter électrique. Le dernier kilomètre. Avant, on a un système logistique qui est plus complexe. Hein. On a un laboratoire où on fabrique nos plats. Depuis notre laboratoire, ça part en camion. Hein, donc, on a des camions en propre et des camions d'entreprises partenaires qui vont livrer des hubs. Et depuis les hubs, on assure le dernier kilomètre. D'accord ? Et là, le dernier kilomètre, il est assuré à vélo ou à scooter électrique dans quasiment 100% des cas. Donc là, on travaille maintenant de plus en plus avec des auto-entrepreneurs, mais regroupés au sein de collectifs. Alors, ils ont pas des avantages de salariés, mais ils ont quand même réussi à s'organiser de façon à être quand même mieux protégés, notamment sur les sujets des assurances, de la prise en charge du matériel, etc. Et nous, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'on travaille, déjà, on n'est pas à la course, on a deux créneaux de livraison et c'est livré dans les créneaux de livraison. Donc, on n'a pas de promesse de livrer, par exemple, en moins de 15 minutes. Ce qui occasionne des accidents, une pression, etc. Et ensuite, les gens sont payés au shift. Donc, qu'ils fassent 10 courses ou qu'on leur en assure 10 ou qu'on leur assure qu'une course, ils sont payés sur le shift et pas, si on n'a pas pu leur assurer de course, ils sont pas payés.
Intéressant.
Ça, c'est
modèle.
Quand même une différence qui est fondamentale.
Énorme.
Une différence qui est fondamentale, ouais.
OK. Vous avez décidé récemment de vous lancer dans le label Positive Company. Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi vous lancez dans cette démarche?
Alors, là, on a une mission, donc on a un cap. Et puis, il nous faut un cadre, en fait, pour bien naviguer et donc ne pas se perdre en chemin. Et en fait, la certification, elle nous permet... elle nous permet de formaliser en fait ce cadre et elle nous permet aussi d'améliorer notre trajectoire. Donc elle a un double objectif, un de prendre une photo à l'instant T de où on en est, qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait pas de bien selon des critères de référence quoi. Et aussi l'objectif de nous améliorer dans cette trajectoire.
Et qu'est-ce que vous attendez des dialogues parties prenantes que vous allez avoir dans ce contexte-là? Vous allez envoyer des enquêtes à vos salariés, à vos livreurs, à vos fournisseurs, à vos clients, évidemment. Qu'est-ce que vous pensez qui va ressortir de ces enquêtes? Ça va être intéressant, on n'a pas encore lancé le process.
Alors là, pour nous, c'est un des gros points de différenciation de Positive Company. C'est avec le fait que Positive Company est un label français et qui aussi nous permet de nous cranter sur la réglementation européenne qui est la mieux disante aujourd'hui, c'est vraiment ce que ça va nous apporter en plus par rapport à d'autres labels existants sur le marché, c'est cette consultation des parties prenantes. On est à la fois excité et inquiet, franchement, parce que c'est pas un exercice, nous on n'est pas une très grosse entreprise, c'est pas un exercice qu'on peut faire si facilement que ça en fait. Et on va surtout s'en servir pour recueillir des feedbacks et ensuite aller s'améliorer en fonction des retours qu'on aura eu quoi.
Ça évite le greenwashing généralement ce genre de démarche.
Ouais, ça permet d'objectiver effectivement je trouve que ça ajoute de la sincérité, de l'authenticité à la démarche. Quand un audit c'est quelque chose finalement de froid, de clinique, on a une bonne note, on a une mauvaise note. Même si les certifications sont valables et sont sérieuses, je Je pense que le fait d'avoir la vision des parties prenantes, c'est vraiment quelque chose qui rend la certification, moi je pense qu'elle ça la rend supérieure en fait.
Comment vous voyez, encore une autre question et on aura terminé, comment vous voyez le métier de la restauration, que ce soit en entreprise ou globalement de la restauration, évoluer dans le temps? Est-ce que les transitions qu'on connaît aujourd'hui, les révolutions qu'on connaît, qu'elles soient technologiques comme l'IA, qu'elles soient RSE, qu'elles soient en termes du digital aussi, comment vous pensez que la restauration va évoluer dans le temps? Et j'irai même plus loin, quelle est votre vision de la restauration dans l'avenir, quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez que ce soit?
Elle va beaucoup évoluer, mais je crois que ce qui va la faire le plus évoluer, c'est la végétalisation. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est complètement d'accord avec ça. Et même plus, les gens ont de plus en plus envie. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Parce qu'avant, la contrainte de moins manger de viande et de poisson, et derrière, de produits laitiers, parce que dans la végétalisation, il n'y a pas que la viande et le poisson. On s'attarde souvent sur ça, mais il y a aussi tous les produits laitiers. C'était vécu comme une contrainte.
Et les chefs aujourd'hui sont hyper emballés par ça aussi.
Par la végétalisation,
exactement.
Carrément.
Ouais, c'est une révolution qu'on a connue depuis
Alors,
peu,
c'est une révolution qui est en train de se faire, parce qu'il y a un gros enjeu de formation, notamment dans la restauration collective. Comment on fait pour bien cuisiner des lentilles? Et là, je voudrais rendre hommage à Sofiane et Marco, à nos chefs de cuisine, mais qui sont des pros de la cuisine, des lentilles, des pois chiches, des patates douces et que sais-je. Et là, il y a quand même un fort enjeu de formation et il faut qu'il y ait de l'appétence, il faut qu'il y ait de l'envie. Cuisiner des légumes, des légumineuses, du végétal, c'est pas ennuyeux. D'ailleurs, si vous regardez les plus grands chefs aujourd'hui, les chefs de la scène gastronomique, c'est pas notre métier, hein, ceux qui ont les fameux 2 ou 3 étoiles au guide Michelin, ils sont pas forcément végétariens, mais ils le disent tous. Les Régis Marcon, ils disent que l'univers du végétal, il est infiniment riche. Il y a une infinité de goûts, une infinité de complexité aromatique qui est passionnante pour les chefs. Donc, une fois qu'on a passé ce truc de « oh, ben non, enlever la viande et le poisson, mais c'est horrible, comment je vais manger ?» Je pense qu'il y a une autoroute pour se faire plaisir, pour diversifier son alimentation et pour la végétaliser. Pour moi, c'est le plus gros marqueur. Et j'étais encore hier à une journée qui rassemblait des acteurs de la restauration hors domicile. Que ce soit des petits, des gros, restaurations livrées ou pas. Et c'est la tendance de marché qui est la plus observée, la plus suivie et qui est portée aussi de plus en plus par les décideurs et les gens sur le terrain. Donc, c'est une très bonne nouvelle.
Et quel conseil vous donneriez aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent aujourd'hui? Est-ce que vous auriez un conseil, que ce soit managérial, que vous avez un... connu dans votre carrière, que ce soit dans votre secteur d'activité ou ailleurs?
Un conseil de cuisine?
Par exemple, ça peut être un conseil de cuisine, ça peut être aussi un conseil pour améliorer son impact en termes de restauration, ou peut-être pour d'autres enseignes qui nous écoutent aujourd'hui et qui hésitent à prendre ce chemin-là.
Moi, mon conseil, ce serait... faire un mauvais pastiche, mais soyez engagés. En 2100, là, on nous prédit plus 3,5, plus 4 degrés.
Non, tout va bien. En COP28, ils sont en train de tourner doucement.
Ça veut dire que mes petits-enfants vont vivre dans un monde qui sera radicalement différent, qui sera un monde de crise migratoire, de crise météorologique, tous les jours, de crise agricole, ce sera ça leur quotidien. Et aujourd'hui, là, les derniers chiffres, c'est 33% de l'impact environnemental dans le monde, c'est les systèmes alimentaires, au sens large.
On a tous besoin de se nourrir.
Tous les jours, on se nourrit, 3 fois par jour, on fait cet acte de nous nourrir, certains, c'est 4 fois ou 5 fois. Donc, on a tous, je dis pas que la responsabilité, elle est sur nos épaules individuelles, elle est aussi, évidemment, chez les restaurateurs, mais elle est chez tous les acteurs des systèmes alimentaires en général. On a un levier énorme pour travailler sur ça et pour faire en sorte que ce monde-là de 2100, auquel moi je pense très souvent personnellement, il soit peut-être, j'espère, un peu plus vivable que celui vers lequel on est en train de se diriger. Donc, soyez engagés, c'est pas ennuyeux, c'est pas une alimentation qui est qui est dénué de goût. Au contraire, c'est une alimentation vraiment gourmande, savoureuse, riche, et pas seulement pour la santé. C'est pas que des graines et des trucs comme ça. Manger sain et durable, c'est vraiment délicieux, et c'est ça qu'on essaye de faire à Food Chérie tous les jours.
Merci beaucoup, Caroline.
Merci, Charles.
C'était passionnant.